RFI, il est 23h30 à Paris et à Libreville, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et votre journal est présenté par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Juliette, Juliette Pietraszewski. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'info africaine, fin du suspense pour les candidatures à l'élection présidentielle du 12 avril au Gabon. Quatre candidats dont les dossiers avaient été recalés ont été repêchés par la Cour constitutionnelle après examen des recours. Au total, ils seront 8 à concourir au scrutin d'avril prochain. Nous irons ensuite à Walikale Centre, dans l'est de la République démocratique du Congo, où après la calmie relative de la matinée, la tension est montée d'un cran ce vendredi après-midi. Cette cité, située à environ 400 km à l'est de Kisangani, est sous contrôle des rebelles de l'AFC M23 depuis jeudi. Et puis en Guinée, c'est Lou Dalein Diallo, convoqué par la CRIEF en vue de son inculpation. Le président de l'UFDG, principal parti d'opposition, est poursuivi pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Au Burkina Faso, le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou, la capitale, annonce l'ouverture d'une enquête en lien avec des messages de haine diffusés sur les réseaux sociaux. Messages de haine et d'appel au meurtre contre la communauté Peul. Au sommaire également du sport avec les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Nous irons ensuite à Marseille, dans le sud de la France, pour le Babel Music XP. Un événement international tout entier dédié à la filière musicale qui se tient jusqu'à demain dans la cité phocéenne. Au Gabon, il y aura finalement 8 candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Pour rappel, il y a 2 semaines, 4 dossiers de candidature avaient été validés par la commission d'organisation du scrutin au sein du ministère de l'Intérieur. Ce vendredi, 4 autres candidats ont donc été repêchés par la Cour constitutionnelle après examen de leur recours. Il ne s'agit pas de personnalités de premier plan. En tout cas, parmi eux, parmi ceux dont les recours ont été repoussés, eh bien, on retrouve l'ancien leader syndical Jean-Rémy Yama qui dénonce, je cite, « un jour triste pour la démocratie et un acte de lâcheté ». Les précisions de François Mazet.
Sur les 19 candidats écartés par le ministère de l'Intérieur, 13 avaient formé des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour tenter d'être intégrés à la course à la magistrature suprême. Parmi eux, seuls 4 ont obtenu gain de cause. 2 ans après avoir participé au scrutin annulé de 2023, Thierry Yvon-Michel Ngoma et Axel Stophen Ibinga Ibinga participeront à une deuxième campagne. Ce sera une nouveauté en revanche pour Alain Simplice Bungueres et Zenabaninga Channing. Cette chef d'entreprise de 36 ans avait été la première candidate à se déclarer le 7 février. Elle sera bien de la partie et la seule femme parmi les 8 prétendants. Les 4 repêchés rejoignent Brice Clotaire Oligingema, Alain-Claude Bilibinze, Stéphane Boussengui Loco et Jacques Lapensée Essingon. C'est fini en revanche pour Jean-Rémy Yama. Le syndicaliste, 2 fois emprisonné sous Ali Bongo, avait ajouté à son dossier le certificat de naissance manquant, prouvant l'origine gabonaise de sa mère. Mais la Cour n'en a pas tenu compte. Est-ce les valeurs d'honnêteté, de probité et d'intégrité que j'incarne qui vous font peur, a-t-il écrit sur sa page Facebook à l'adresse du chef de la transition.
Et réaction justement du syndicaliste Jean-Rémy Yama au micro RFI de Yves-Laurent Goma, notre correspondant à Libreville.
C'est un jour triste pour la démocratie. En même temps, c'est un acte de lâcheté, de pure lâcheté. Parce qu'il n'y a rien qui peut justifier le rejet de ma candidature. Puisque dans mon recours, j'ai produit l'acte de naissance. Et la Cour n'en parle même pas. C'est-à-dire qu'ils l'ont ignoré. Alors qu'il y a des candidats qui ont fait des recours, à qui il manquait également des éléments, qui ont produit ces éléments et qui ont été acceptés. Alors donc, c'est une tristesse et en même temps un acte de barbarie qui ne se justifie pas. Il y a une volonté manifeste d'écarter ma candidature. Alors pourquoi ils ont peur de moi? La loi, c'est la loi. Quand elle s'applique équitablement, là, la loi n'a pas été correctement appliquée. Et ça, je le dis, parce qu'il n'y a pas de raison, il y a 2 poids, 2 mesures. Et
qu'est-ce que vous allez faire par la suite?
Nous demandons tout simplement à nos militants d'être attentifs au mot d'ordre que nous donnerons.
Propos recueillis par Yves-Laurent Goma, correspondant à RFI à Libreville. Direction l'est de la République démocratique du Congo, où la tension est montée d'un cran ce vendredi après-midi à Walikale Centre. Après une accalmie relative observée dans la matinée, la situation s'est tendue dans cette cité sous contrôle des rebelles de l'AFC-M23 depuis jeudi. Wali Kale Centre, chef-lieu du territoire du même nom, le plus vaste des 6 territoires du Nord Kivu, est situé à environ 400 km à l'est de Kisangani, le long de la route nationale numéro 3. Dans la cité, aucune activité n'a repris. La population est restée terrée chez elle. Le récit de Patient Rigoli.
Wali Kale Centre, ce soir, la situation restait tendue. Les combattants de l'FC M23 contrôlent toujours la cité, mais sur le terrain, l'armée congolaise tente de reprendre la main. Une contre-offensive a été lancée avec l'appui des moyens aériens. Selon des sources sécuritaires, au moins 2 frappes des drones ont été menées dans l'après-midi. Des cibles précises ont été visées et des dégâts ont été signalés, notamment près d'une base d'une organisation humanitaire. La veille déjà, des véhicules de Médecins Sans Frontières, utilisés notamment pour le transport des malades, avaient été touchés par des tirs croisés. Depuis, les activités humanitaires sont suspendues en attendant le retour à des conditions de sécurité suffisantes. Sur place, la population continue de fuir. Depuis hier, des déplacés arrivent à Lubutu, à plus de 200 km de Wali Kale. Ils viennent de la cité, mais aussi des Moubi, une localité voisine où des pillages ont été rapportés. Pour les humanitaires, la priorité aujourd'hui, c'est l'accès aux soins. Il faut garantir la continuité des services à l'hôpital de Wali Kale Centre, mais aussi évaluer les besoins autour de la cité, notamment le long de l'axe Mpofi-Kibwa, plus au nord où des mouvements des populations ont été observés. Autre enjeu, évaluer les besoins des déplacés déjà présents à Lubutu.
Récit signé Patient Ligodi. En Guinée, Seloud Alain Diallo, convoqué par la CRIEF en vue de son inculpation. Ce vendredi, la Cour anticorruption a confirmé l'inculpation prochaine du président de l'UFDG, principal parti d'opposition. Seloud Alain Diallo est poursuivi pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite dans l'affaire dite Air Guinée, l'ancienne compagnie aérienne vendue dans des conditions jugées suspectes à l'époque où Seloud Alain Diallo était ministre en charge de ce dossier. Cette inculpation intervient en tout cas une semaine après la suspension des plus importants partis politiques du pays. L'UFDG dénonce cette décision, je cite, purement politique pour éliminer les poids lourds de la scène politique guinéenne. Explication, Sidi Yansané.
C'est une affaire qui colle aux semelles de Seloud Alain Diallo depuis 2 décennies. Alors qu'il est ministre des Travaux Publics et des Transports sous la présidence du général Lansana Conté, Dalin est chargé de vendre des appareils de la flotte Air Guinée, compagnie aérienne fondée peu après l'indépendance, motif de fierté de la Guinée révolutionnaire de Sékou Touré et dissoute dans les années 2000. Depuis, le président de l'UFDG est régulièrement visé par ses concurrents politiques pour son rôle dans cette disparition. Peu après son putsch en 2021, la junte du CNRD installe la CRIEF qui rouvre plusieurs vieux dossiers judiciaires, dont celui d'Air Guinée. Une raison supplémentaire pour Seloud Alain Diallo de s'exiler après avoir vu sa maison à Conakry être rasée sur ordre des nouvelles autorités. Son parti, l'UFDG, souligne à RFI que son président n'a été entendu ni par la justice guinéenne ni par une juridiction supranationale et dénonce des manœuvres politiques visant à laisser le champ libre au général Mamadi Doumbouya, qui a le soutien officiel de sa junte et du gouvernement de transition pour se maintenir à la tête du pays.
Explication signée Sidi Yansané. Au Burkina Faso, le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête en lien avec des messages de haine diffusés sur les réseaux sociaux. Messages de haine et appel au meurtre contre la communauté Peul, alors que le 10 mars dernier, une nouvelle attaque attribuée aux militaires et aux volontaires pour la défense de la patrie a fait des dizaines de victimes dans les rangs de cette communauté. Ousmane Diallo est chercheur principal pour le Sahel à Amnesty International.
C'est ça le contexte de ce communiqué du procureur-là, que nous saluons, mais nous notons aussi que ce communiqué n'est qu'une répétition de ce qui a été fait au cours des 4 dernières années. Ce n'est pas la première fois qu'un procureur du Faso dénonce des propos faisant l'apologie des appels ethniques, souvent en lien avec la communauté Peul, donc qui est stigmatisée à cause de l'insurrection djihadiste. Mais aucune suite ne vient, en fait, après ces communiqués-là. Donc, il y a des dénonciations, des rappels de la loi, mais il n'y a pas de sanctions, malheureusement. Et ce qu'on peut noter durant les 4 dernières années, c'est que cette impunité-là, non seulement qui se traduit dans les propos apologétiques et appelant presque au nettoyage ethnique, et aussi dans la violence et dans la stigmatisation et dans la normalisation de la violence contre les communautés peules qui vivent dans les zones d'intervention militaire comme dans la boucle du Mont-Houn, facilite la perpétuation de ces violences-là. Donc pour qu'il y ait vraiment un effet, il faut qu'il y ait des sanctions contre ces auteurs de posts Facebook, mais aussi ces propos qui sont tenus dans les radios en langue locale qui font l'apologie de la haine ethnique.
Voilà, Ousmane Diallo d'Amnesty International, propos recueillis par Frédéric Garra. Et puis au moins 44 civils tués ce vendredi dans une nouvelle attaque djihadiste dans le sud-ouest du Niger. Annonce faite par le ministère de l'Intérieur via un communiqué lu à la télévision d'État, Télé Sahel. L'attaque a été perpétrée dans un village situé dans la zone dite des trois frontières, aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Une zone devenue un repère pour les djihadistes sahéliens affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Au Mali, cela fait tout juste une semaine qu'Alou Badra Sakho a été enlevé en plein cœur de Bamako par des hommes encagoulés. Selon les informations de RFI, il est depuis détenu par la sécurité d'État. Président du Front Touche pas à mon argent et coordinateur de l'appel du 20 février, il a été enlevé le 14 mars dernier en plein Bamako, après avoir animé une réunion pour contester les nouvelles taxes sur les services téléphoniques. Depuis, David Baché, plus aucune nouvelle.
Ses proches ignorent où il est, comment il est traité. Alou Badra Sakho, figure de la société civile malienne, est détenu depuis une semaine dans une prison secrète de la sécurité d'État. Abdoulaye Traoré est le président du parti RJS, membre de l'appel du 20 février, dont Alou Badra Sakho est coordinateur, et il est extrêmement inquiet.
Nous avons peur pour d'abord sa sécurité, pour sa survie. C'est quand même un vieux de plus de 60 ans et qui est atteint de deux maladies chroniques. Il a non seulement l'hypertension, mais il a aussi le diabète.
Alou Badra Sakho a été enlevé après avoir organisé une réunion du Front Touche pas à mon argent pour contester les nouvelles taxes sur l'achat de crédits téléphoniques et sur les transferts d'argent par mobile monnaie. Au-delà de ce combat, Abdoulaye Traoré du RJS et de l'appel du 20 février dénonce le climat de terreur entretenu par les autorités.
Nous sommes écœurés par ces énièmes enlèvements. Nous avons des camarades politiques, des camarades de la société civile qui se font enlever en plein cœur de Bamako par des gens cagoulés, armés, non identifiés. Le droit de l'homme n'est plus respecté dans notre pays.
Depuis l'enlèvement, les activités prévues par le Front Touche pas à mon argent, une conférence de presse notamment, ont été reportées, mais pas abandonnées, assurent ses membres.
Sujet signé David Baché. Puis au Ghana, un des principaux marchés de plein air, détruit ce matin dans un incendie. Cela s'est passé à Kumasi, deuxième plus grande ville du pays, au cœur du quartier central des affaires. Incendie maîtrisé en milieu d'après-midi, selon les pompiers. Les premiers bilans rapportés par les médias locaux parlent de plusieurs dizaines de magasins détruits. On parle également de plusieurs blessés. Si les causes du drame ne sont pas encore connues, cet événement rappelle un autre incendie survenu, lui, en janvier à Accra, celui du marché de Kantamanto, l'un des plus grands sites de vente d'Afrique de l'Ouest, complètement détruit par les flammes et aujourd'hui en cours de reconstruction. L'armée soudanaise a annoncé ce matin s'être emparée du palais présidentiel de Khartoum aux mains des forces de soutien rapide depuis le début du conflit en avril 2023, à l'aube du second anniversaire de la guerre et après des semaines d'opérations pour reconquérir la capitale. Il s'agit d'une victoire importante pour les forces gouvernementales. Toutefois, cette victoire ne marque pas la fin du conflit. C'est notamment ce que nous explique Roland Marchal, chercheur à Sciences Po, qui s'inquiète aussi des répercussions que cela pourrait entraîner dans la ville d'El Fasher, au Darfour.
Pour la bataille de Khartoum, c'est évidemment un acquis militaire important et un symbole. Mais pour l'ensemble de la crise au Soudan, on peut dire que oui, c'est un événement, mais c'est peut-être pas du tout la lumière au bout du tunnel, hein, de quelque manière que ce soit. Ce qui est sûr, c'est qu'une bonne partie des hommes et peut-être un peu de matériel va réussir à quitter Khartoum et se replier vers l'ouest du pays, et que là-bas, les bases de la structure et le nombre de combattants des forces de soutien rapide sont beaucoup plus importants et peuvent permettre des combats acharnés et peut-être une contre-offensive. C'est vrai qu'El Fasher reste un point de fixation extrêmement important. Les forces de soutien rapide ont avancé autour de la ville et dans la ville, et très certainement la défaite à Khartoum va inciter ces troupes à redoubler d'efforts pour prendre le contrôle de l'ancienne capitale du Grand Darfour et qui est aujourd'hui la capitale du Nord Darfour.
Le chercheur Roland Marchal au micro de Nicolas Sûr. C'est une journée qualifiée d'historique pour la Namibie. Netumbo Nandi-Ndaiwa a été investie 5e présidente du pays depuis l'indépendance et surtout la toute première femme élue à ce poste. Son investiture coïncide aussi avec les 35 ans de l'indépendance de la Namibie. Dans son tout premier discours, elle a tracé les grandes lignes de son mandat.
Je servirai tous les Namibiens sans distinction, quelle que soit leur affiliation politique. Nous devons avancer ensemble, en tant que peuple uni, avec un seul cœur et un même objectif. L'éducation et la formation resteront une priorité de mon gouvernement, car elles sont essentielles pour gérer efficacement notre économie et créer les emplois dont notre population a besoin. La corruption, sous toutes ses formes, doit être combattue sans relâche. Nous devons l'éviter à tout prix. Notre politique étrangère, elle ne changera pas. Nous continuerons de défendre fermement le droit des peuples de Palestine et du Sahara occidental à l'autodétermination, comme nous l'avons toujours fait. Enfin, je tiens à dire que mon élection à la présidence représente, je l'espère, une source d'inspiration pour toutes les femmes, quelles que soient leurs origines. Qu'elles se lèvent, qu'elles prennent leur place, qu'elles fassent entendre leur voix. Je n'ai pas été élue parce que je suis une femme, mais sur la base de mes compétences.
Voilà les propos de Netumbo Nandi-Ndaiwa, la nouvelle présidente de la Namibie. Au Zimbabwe, maintien en détention d'un journaliste arrêté il y a 25 jours après avoir interviewé une ancienne figure du parti au pouvoir qui affirmait que le président Emmerson Mnangagwa devrait démissionner. Un juge a rejeté l'appel formulé par le journaliste après le refus d'un tribunal de le libérer sous caution et a estimé, comme lors de la précédente décision, que le journaliste risquait d'interférer avec l'enquête et les témoins. L'affaire a été vivement critiquée par les groupes de défense des droits et des médias. En football, la séquence internationale se poursuit. Les sélections africaines disputent la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 11 matchs étaient au programme ce vendredi pour la suite de la 5e journée. Victor Missistrano, la grande majorité des rencontres sont terminées et les champions d'Afrique restent invaincus et vous êtes aux couleurs des champions d'Afrique.
À vous dévoiler les coulisses.
Absolument.
Bilan quasi parfait à mi-parcours pour la Côte d'Ivoire en tête du groupe F. 1 nul et 4 victoires. Dernière en date ce soir donc face au Burundi, 1-0. C'est le Niçois Evan Guessant qui inscrit le seul but du match. Même score en faveur de la République démocratique du Congo contre le Soudan du Sud grâce à un but de Théo Bongonda. Les Léopards qui reviennent en tête du groupe B à égalité avec le Soudan, qui jouera demain face au Sénégal, les Lions de la Teranga, provisoirement troisième.
Et de son côté, le finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations s'est enfin rassuré.
Oui, enfin une victoire du Nigeria dans ses éliminatoires. Les Super Eagles qui ont pris leur envol contre le Rwanda 2-0, un doublé de la star Victor Osimhen. Début réussi donc pour le Malien Eric Schell à la tête de la sélection nigériane. Écoutez sa réaction. C'était un match difficile parce que le Rwanda est une bonne équipe. Je connais l'entraîneur, c'est un bon coach. Nous avons livré un grand match. Je suis très heureux pour mes joueurs et pour le peuple nigérian. Nous avons beaucoup travaillé pendant une semaine avec certes deux séances d'entraînement, mais beaucoup de séances vidéo et beaucoup d'informations pour mes joueurs. Nous avions un plan de jeu et mes joueurs l'ont bien exécuté. Donc je pense que la victoire est bien méritée.
It's normal.
Alors le Nigeria reste tout de même quatrième du groupe C, ça il va donc être assez compliqué encore dans ces éliminatoires. Prochain rendez-vous mardi face au Zimbabwe dans ce groupe où l'Afrique du Sud fait la course en tête. Succès 2-0 des Bafana Bafana aujourd'hui contre le Lesotho dans la poule G. C'est l'Algérie qui domine les débats. Quatrième succès des Fennecs en 5 rencontres, 3-1 devant le Botswana. La Guinée de son côté essaye de rester au contact. Le Sili n'y arrive pas pour l'instant contre la Somalie, pourtant dernière du groupe, toujours 0-0 en seconde période.
Et ça joue encore, Victor, sur deux autres pelouse, deux matchs en cours au Maroc.
Demi-finaliste du dernier mondial, les Lions de l'Atlas sont bien partis pour se qualifier pour le prochain, mais pour l'instant, ils sont menés par le Niger, 1-0 à Oujda. De son côté, l'Égypte mène face à l'Éthiopie 2-0 dans un match délocalisé à Casablanca, toujours au Maroc. C'est Mohamed Salah qui a ouvert le score. Les Pharaons font la course en tête du groupe A devant le Burkina Faso qui a surclassé Djibouti 4-1. Dernier résultat à vous signaler, Zéphirin, le carton du Ghana face au Tchad, 5-0.
C'est lourd. Merci beaucoup, Victor Missistrano. cap sur Berberati à présent pour le deuxième volet de notre série de reportages dans cette ville du sud-ouest de la République centrafricaine. On s'intéresse aujourd'hui aux initiatives communautaires pour la reconstruction des routes, des voies de circulation aujourd'hui en piteux état avec son lot de désagréments pour les usagers et l'impact sur les activités socio-économiques qui tournent au ralenti. Certains habitants de Berberati, notamment des jeunes, ont donc décidé de s'attaquer au problème à travers des initiatives communautaires pour reconstruire les routes désaffectées. Reportage Rolf Steve Domialeux.
Au volant de sa voiture, Albert affronte les voies impraticables qui traversent le quartier de Djambala. Pendant cette saison des pluies, le ravin s'est agrandi et la mobilité est pénible. Pris au piège dans une mare, cet homme de 36 ans joue avec son volant pour éviter de tomber dans les ravins.
La route est impraticable à cause de l'érosion des nids de poules et du manque d'entretien. Je suis en train de m'embourber et il va falloir faire demi-tour. À chaque saison des pluies, les trous et les ravins se développent, c'est très pénible.
Le taxi bus de Mahamat, lui, est en route pour Kenzou, ville frontalière avec le Cameroun. Mais un camion s'est renversé dans les ravins, bloquant la circulation depuis quelques minutes. Alors que les badauds tentent de faire sortir les rescapés, Mahamat craint également pour son sort.
C'est un casse-tête pour circuler dans cette ville. Il n'y a pas de rénovation et l'érosion abîme toutes les routes. Il faudra plusieurs jours pour retirer le grumier qui s'est renversé. Nous sommes tous coincés à cause de ce passage pourri.
Dans ce calvaire, des jeunes volontaires de la ville tentent de débloquer la situation. On les retrouve dans certains quartiers de Berberati, armés de pelles, de pioches et de bouées. Ici, au quartier de Difolo, une dizaine de jeunes sont en activité. Ils n'ont pas de gants, de casques et de bottes. Jeans déchirés, t-shirt noir démembré, Gabriel veut changer les choses.
La route n'a pas été réhabilitée depuis plusieurs décennies. Nous avons bouché quelques trous avec de la latérite pour alléger la souffrance des usagers.
À moto, à vélo, derrière un volant ou à pied, les 100 000 habitants de Berberati vivent le calvaire. Plusieurs quartiers sont coupés les uns des autres selon Yalis, membre de l'équipe.
À certains endroits, nous remplissons des sacs de sable que nous mettons dans les ravins pour empêcher leur progression. Certaines personnes de bonne volonté nous donnent des cadeaux pour nous encourager. Mais on n'oblige personne, c'est un acte volontaire.
L'axe Berberati-Kenzou est l'une des voies de ravitaillement de la République centrafricaine depuis le Cameroun. Selon une source à la direction des travaux publics de la ville, des études sont en cours afin de lancer les travaux de réhabilitation de ces routes dans les prochains mois. Rolf Steve Domialeux, de retour de Berberati, RFI.
RFI, 23h52 à Berberati et Marseille.
Bonsoir à tous, bonsoir Marseille.
Le collectif caribéen XPK était à l'affiche du Babel Music XP hier soir à Marseille, dans le sud de la France, un événement international tout entier dédié à la filière musicale, événement qui se tient jusqu'à demain. Hortense Vol est sur place pour RFI. Bonsoir Hortense.
Bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous.
Alors le Babel Music XP, c'est un salon qui accueille des professionnels du monde entier, mais c'est aussi un festival de musique planétaire ouvert au grand public, Hortense.
30 groupes sont programmés cette année. Ils ont été sélectionnés par un jury international parmi plus de 1900 candidatures reçues des 5 continents. Stéphane Krafneski est conseiller artistique du Babel Music XP. Il a examiné toutes les candidatures et voilà ce qui a particulièrement retenu son attention.
Cette année, particulièrement, on a eu des projets qui venaient de l'Est, qui étaient extrêmement intéressants, et toujours des projets qui viennent d'Afrique de l'Ouest, qui sont de plus en plus qualité, qui racontent de plus en plus, je trouve, une forme d'actualité de ce qu'est le monde contemporain, des mutations que traverse le continent. Donc ça, c'est extrêmement important. L'une des raisons, certainement, c'est aussi que les moyens de production se sont délocalisés, autonomisés, et ça fait qu'on a une profusion de candidatures extrêmement intéressantes qui nous viennent de l'ensemble du continent africain.
Une profusion qui ne se traduit pas complètement dans la sélection finale. Stéphane Krafneski nous explique pourquoi.
Ça, c'est vrai que c'est un peu le prisme du marché. C'est-à-dire que nous, dans la sélection qu'on fait, on essaye de s'assurer que le projet, le groupe, a un entourage qui lui permet d'imaginer une tournée internationale. La vocation du marché de Babel, c'est de faciliter l'export, de faciliter la tournée internationale. Donc effectivement, on reçoit beaucoup de projets qui ne sont portés que par des structures qui n'ont pas nécessairement les moyens d'exporter, qui n'ont pas nécessairement les moyens de trouver les billets d'avion qu'il va falloir acheter pour pouvoir jouer à Babel. Et dans ces conditions, on a tendance à favoriser des projets portés par des structures peut-être européennes, tout au moins repérées sur les marchés internationaux.
Et cette réalité n'empêche pas l'Afrique d'être fièrement représentée au Babel Music Expert Hortense, notamment par le grand maître de la kora, Ablaye Sissoko.
Un artiste dont la carrière est émaillée de rencontres aussi fertiles qu'inattendues, Zéphirin, et qui fait aujourd'hui dialoguer son instrument avec l'accordéon diatonique du français Cyril Brotteau.
Ça a été un rêve, de jouer avec un accordéoniste. Mais il y a beaucoup d'accordéonistes. On a rencontré d'autres, mais je pense qu'il faut attendre le bon moment. Voilà. Et donc, avec Cyril, ça s'est tout de suite senti. Il m'a cherché, mais c'est moi qui l'ai retrouvé.
À la croisée de la puissante tradition mandingue et des musiques de Balmusette, la conversation entre les instruments d'Ablaye Sissoko et de Cyril Brotteau est tellement évidente qu'ils viennent de sortir un deuxième album commun, Gio, qui en mandingue signifie « eau ». On sort apaisé, ému et grandi de cette traversée poétique où il est surtout question de solidarité. Ablaye Sissoko nous explique la signification de son titre d'ouverture.
« Mono Matere », c'est un wolof. En fait, cette pièce parle de... Il y a des gens qui nous enlèvent notre dignité. Il y a des gens qui nous empêchent de regarder, qui nous empêchent d'écouter, qui nous empêchent de marcher, qui nous l'imposent même. Voilà. Et nous, on accepte tout ça. Mais on aimerait avoir le droit de vous demander une faveur. Et cette faveur est, tout ce que vous voulez, je le fais. Mais ne m'enlevez jamais le sourire.
Autre groupe très attendu à Marseille, Hortense, Kin Gongolo Kinyata.
Et pour cause, Zéphirin, avec leur électro-bricolo-punk, ces Kinois transforment des objets du quotidien en instruments de musique, le chaos urbain en une symphonie unique.
Les Kinois de Kin Gongolo Kinyata sont en playlist, je vous le rappelle, ce mois-ci sur RFI et juste ce soir au Babel Music XP à Marseille.
Tout comme la rappeuse sud-africaine Yugen Blackrock, avec qui j'ai eu la chance de passer un moment en toute intimité et en audio 3D. Vous la retrouverez donc tout bientôt dans BPM La Rencontre, Zéphirin.
Et d'ici là, Hortense, on sera à l'écoute bien sûr dimanche à 14h10 temps universel de vos bonnes pulsations du monde, spécial Babel Music XP. Merci à Benjamin Saralier et Jérémy Bessé qui vous accompagnent dans la cité phocéenne. Et bonne fin de Babel à tous les trois.
Merci Zéphirin.
Merci. C'est sur l'ambiance du Babel Music XP que s'achève cette édition d'Afrique Soir, réalisée par Jonathan Brady, rédacteur en chef Alexis Guilleux, attaché d'édition Simon Buit-Baudin. Merci à eux et surtout à vous pour votre attention.
Religion du monde, Véronique Guémard.
La chute du régime de Bachar al-Assad a suscité beaucoup d'espoir parmi les habitants et les nombreux réfugiés qui avaient fui les combats. Mais de nouvelles violences ont assombri les perspectives de paix dans un pays très divisé, avec une mosaïque confessionnelle et ethnique complexe, instrumentalisée par certains groupes.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI. Le goût du monde. Clémence de Navy.
Il est dit qu'à Norouze, les maisons sont transformées en jardins de blé et de lentilles germées. La nature vibre, le sumac, son acidité mêlée à la légèreté du riz, des herbes partout comme une plongée dans un plat de printemps. Et la lumière, Norouze à la table d'une femme chef et de sa famille ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence Denavy sur RFI.